Vous écoutez France Culture.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Jean-Louis Jacobin.
Et à la réalisation, Luc Jean Reynaud. Vivre, c'est faire bref, déclare Frédéric Schifter, et un essai sur ce point doit imiter la vie. L'œil et l'esprit de Maurice Merleau-Ponty est en ce sens un prodige de concision. 80 pages, simplissime, où le philosophe ne tente pas de résumer sa pensée, mais d'en retrouver l'élan, l'émergence, la source vive. 80 pages de 20 lignes chacune pour ouvrir le monde à la pensée et la pensée au monde qu'elle donne à sentir et qu'elle protège de sa pulpe frémissante. 80 pages qui sont à la phénoménologie de la perception ce pavé, ce qu'un aphorisme est à un chapitre entier. La même chose en plus simple, c'est-à-dire aussi en plus difficile. 80 pages comme un testament qui s'ignore et se déguise en nouveau début.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
L'œil et l'esprit est le dernier livre que Maurice Merleau-Ponty ait achevé. On sait qu'il l'écrivit le temps d'un été dans ce beau paysage de Provence qui ne vit que par la lumière. Mais ses forêts de cyprès et de pins, ses rivières et ses champs de lavande, cette montagne Sainte-Victoire surtout, ne forment déjà plus des paysages. La fonction magique de l'œil les a transformés en peinture. Depuis 15 jours, le peintre les a regardés. Car comme l'écrit le philosophe, l'œil voit le monde et ce qui manque au monde pour être tableau.
La science manipule les choses et renonce à les habiter. Elle s'en donne des modèles internes et, opérant sur ces indices ou variables, les transformations permises par leur définition ne se confrontent que de loin en loin avec le monde actuel. Elle est, elle a toujours été, cette pensée admirablement active, ingénieuse, désinvolte. Ce parti pris de traiter tout être comme objet en général, c'est-à-dire à la fois comme s'il ne nous était rien et se trouvait pourtant prédestiné à nos artifices.
Alors Raphaël, dans le texte que vous avez lu qui ouvre l'œil et l'esprit, bah déjà ce qui peut paraître étrange, c'est que c'est un texte qui parle de peinture, de Cézanne en grande partie, et puis il commence par parler de la science. Et la question qu'on peut poser, c'est en quoi, enfin, qu'est-ce qui vraiment différencie la science et la peinture ? Lorsqu'il dit que la science renonce à habiter le monde, ben, est-ce qu'on peut dire que la peinture habite le monde, par exemple ?
C'est l'objet de l'œil et l'esprit. C'est l'objet de la démarche de Merleau-Ponty, effectivement. C'est de montrer que la peinture habite le monde, contrairement à la science. Alors, il n'est pas étonnant de partir de là, puisque l'œil et l'esprit est construit tout entier sur l'opposition, une opposition complémentaire entre vraiment les deux piliers de la démarche de Merleau-Ponty, que sont d'un côté la pensée de Descartes et de l'autre la peinture de Cézanne. Et c'est ce dialogue entre Descartes et Cézanne, ce dialogue magnifique qu'il établit, dont il est l'intercesseur, dont il est le porte-parole. Il est c'est un cartésien critique, hyper critique, mais c'est un cartésien quand même. C'est un amoureux de Cézanne qui tente, avec les mots, de restituer un tout petit peu de l'émerveillement qui est le sien devant les peintures de Cézanne. Donc il part de Descartes pour en venir à Cézanne, et c'est véritablement la trajectoire de l'œil et l'esprit.
Alors, peut-être que si vous ne trouvez pas étonnant qu'il commence par parler de la science, ce que je trouve par contre vraiment étonnant, c'est, enfin, difficile plus qu'étonnant, c'est ce que vous avez dit sur son rapport à Descartes. Parce que, en tout cas, quand j'ai lu L'œil et l'esprit, j'étais convaincue, et c'était peut-être un présupposé, mais que la phénoménologie, et surtout Merleau-Ponty, rompaient avec le cartésianisme. Enfin, ils essayaient du moins de s'en défaire de cette illusion pour être dans le monde.
Mais Paola, si la phénoménologie rompait autant que vous le dites avec le cartésianisme, Husserl eût-il écrit des méditations cartésiennes ?
Bah, comme, je ne sais pas, comme Proust écrit des pastiches pour s'en défaire, vous voyez ce que
oui.
Je veux dire ?
Je ne sais pas si Husserl serait un excellent auteur de pastiches, mais on pourrait en un sens considérer que Husserl est un pastiche de Descartes. Ce serait injuste d'ailleurs, pour l'un et l'autre. En fait, non,
Alors, ce que vous dites est important, cela dit. Hein. Vous avez raison de faire droit à cette impression. Parce que j'ai lu L'œil et l'esprit pour la première fois, et nous ne le disons pas ici pour parler de nous, parce que ça n'aurait aucun intérêt. Mais nous le disons ici parce que l'expérience que nous faisons est une expérience qui, manifestement, traverse les générations. Il y a 18 ans, j'avais votre âge, et je lisais L'œil et l'esprit, et j'avais moi aussi, en lisant L'œil et l'esprit, le sentiment qu'on avait là quelqu'un qui voulait vraiment couper les ponts avec Descartes. En réalité, ce n'est pas exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il tente moins de couper les ponts avec Descartes que de raccrocher les wagons entre Descartes et le monde extérieur. Ce n'est pas tout à fait la même démarche. C'est-à-dire que, au fond, pour le dire très vite, et on va entrer dans le détail du texte et la façon dont ça fonctionne chez Merleau, l'ambition de l'œil et l'esprit, c'est de combler le hiatus qu'un cartésien honnête obligé de reconnaître entre la conscience cartésienne, la composition de la conscience, la saisie de la conscience par elle-même, dans la transparence à elle-même, et le monde dont elle a la représentation et dont elle est séparée par un abîme. Parce que voulez-vous, si c'est par inspection de l'esprit que vous retrouvez le monde, et le monde que vous retrouvez en vous, c'est un monde en un sens désincarné. Ça n'est plus le monde lui-même. Donc comment rester cartésien? Et y a-t-il un intérêt à cela? Tout en se souciant des phénomènes eux-mêmes. En gros, comment rester cartésien tout en préservant l'odeur du morceau de cire, la saveur même du morceau de cire, tout en retenant que le morceau de cire, c'est peut-être un morceau de miel. On a bien souvent tendance, par exemple, quand on est cartésien de stricte obédience, si vous voulez, à désincarner le morceau de cire, puisqu'effectivement, le but de Descartes dans la deuxième méditation métaphysique, au moment du morceau de cire, c'est de... J'avais pas prévu de parler du morceau de cire, mais c'est pas grave. C'est de dire, voilà, la cire, là, elle est froide, elle est solide, on tape dessus, elle rend un bruit sourd, et puis si on l'approche de la flamme, elle s'échauffe, elle devient liquide, et puis si on tape dessus, elle ne rend plus aucun son. Et pourtant, on parle toujours de cire. De sorte que ce que Descartes peut dire à partir du morceau de cire, c'est la permanence de l'idée, du mot peut-être, est-ce seulement du mot d'ailleurs, la permanence de quelque chose par-delà les altérations pelliculaires du phénomène qu'elle constitue. Alors, il s'agirait, donc d'un point de vue strictement cartésien, de s'en tenir à ce qui demeure par-delà ce qui passe. Or, ce que fait Merleau-Ponty, c'est que tout en étant cartésien, il s'attache à ce qui passe. Et il s'attache à la fugacité d'une sensation. Il s'attache aux phénomènes eux-mêmes. Il essaie de penser de l'intérieur, le monde lui-même, en se donnant des prémices qui, a priori, ne facilitent pas cette ambition, puisque les prémices qu'il se donne sont malgré tout cartésiennes. Et c'est une des tensions propres à ce texte. Mais c'est intéressant parce qu'il ne rompt avec Descartes que dans la mesure où il en est tributaire. Au fond, cette rupture avec Descartes est moins une rupture qu'un hommage à Descartes ou une façon d'infléchir la pensée de Descartes dans le sens d'une postérité phénoménale ou phénoménologique, d'une attention renouvelée aux phénomènes dont un cartésianisme lui-même grossièrement résumé et lu de surface, donne un peu le sentiment de s'éloigner ou de nous séparer. Eh bien voilà, Merleau-Ponty, c'est l'inverse. Il s'agit d'habiter le monde tout en étant cartésien.
Voilà, et dans cette tension entre Descartes et Merleau-Ponty ou Descartes et la peinture, une notion clé qui parcourt vraiment l'œil et l'esprit, c'est la spatialité et qu'on retrouve dans les premiers mots du texte avec le verbe « habiter ».
Oui, alors le verbe habiter déjà en lui-même est tout à fait étonnant. Hein. C'est très étrange cette idée d'habiter. Mais avant de parler de l'habitat lui-même, c'est-à-dire de ce que ça signifie, qui en fait, si on peut le résumer, hein, en fait, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase étonnante ? La science manipule les choses et renonce à les habiter. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est une phrase dont on ne sait pas ce qu'elle veut dire quand on ne l'a pas analysée, décryptée, décortiquée. Et même quand on la décortique, on n'est pas sûr de savoir exactement ce qu'elle veut dire. Mais en même temps, intuitivement, on voit ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si on dit aux gens, vous savez, la science manipule les choses, mais renonce à les habiter, on dit quelque chose que les gens peuvent entendre, peuvent comprendre. Oui, quand on critique un esprit scientifique, par exemple. Oui, c'est un esprit scientifique, c'est un esprit théorique. On le dit des énarques, par exemple, vous savez, qui connaissent tellement le monde qu'ils ne font plus de différence entre les chiens et les moutons. Il y avait une blague comme ça sur les énarques. C'est l'idée qu'au fond, un abus de théorie nous éloigne du monde. C'est à peu près ça qu'on pourrait entendre derrière cette phrase. Et c'est pas faux. C'est pas faux. En l'occurrence, la métaphore de l'habitat, qui est un gimmick, qui est un leitmotiv en fait dans l'œil et l'esprit, et ailleurs dans d'autres textes de Merleau, la métaphore de l'habitat est une métaphore à la fois étrange et fondamentale. Que s'agit-il de dire ici ? Eh bien, c'est très simple, c'est qu'il s'agit de ne pas enfermer dans un concept, la prodigalité des phénomènes. Vous savez, quand on donne des choses à un concept, on les assèche. On les squelettise, si j'ose dire. On les rend squelettiques. On n'a plus que leur squelette. C'est comme quand on passe un corps au rayon X, si vous voulez. On n'a plus la peau, on n'a plus la chair, on a les os. Donc, il faudrait ne pas enfermer dans un concept la prodigalité des phénomènes, parce que c'est asséché, cette prodigalité. Mais en revanche, habiter les phénomènes, être attentif au jaillissement, à l'émergence, à la prodigalité, comme source vive des phénomènes. C'est-à-dire, tout simplement, non pas parler de l'espace ou de la lumière, qui sont deux des figures les plus importantes de l'œil et l'esprit, l'espace et la lumière, mais de faire parler l'espace et la lumière. Et ça, c'est tout l'enjeu de Merleau-Ponty. C'est-à-dire que son but n'est pas de discourir sur, de disserter sur, mais de donner à sentir ce que les choses elles-mêmes peuvent nous dire. Et ne pas renoncer à habiter le monde, c'est ça. Parce qu'au fond, on renonce à habiter le monde quand on se tient à l'écart du monde, quand on est à distance du monde, quand on le regarde de loin et qu'on discourt, qu'on disserte à son égard. En revanche, on habite le monde quand on se laisse habiter par lui, quand on se laisse traverser par lui, composer par lui, quand on reconnaît la part de nous-mêmes qui doit son existence au monde. Et c'est pour ça qu'il faut parler de l'espace. Et des deux sens, en gros, que Merleau-Ponty donne à la question de la spatialité. Quand on se laisse habiter, presque hanté par le monde, mais surtout quand on donne la parole au monde. Une des façons les plus simples de le faire, Merleau n'en parle pas ici, et à ma connaissance pas ailleurs, mais je peux me tromper. L'une des façons les plus simples de le faire, c'est le silence. Si vous vous taisez, vous ne recouvrez plus les bruits du monde, du vacarme de votre propre voix et du sens que votre voix est attachée à donner aux choses ou dont votre voix est l'intercesseur vers les choses, en direction des choses. Vous vous taisez et là, le monde réapparaît. Si vous n'essayez pas de vous saisir du monde, si vous n'essayez pas de vous en rendre comme maître et possesseur, dirait l'autre, eh bien, dans ces conditions, les choses viennent vers vous. Parce que vous en êtes, vous en faites partie. Habiter le monde, c'est ça. Peinture chez Merleau-Ponty est une voie royale, ce qu'il appelle une opération centrale, très étrange expression, une voie royale pour définir notre accès à l'être, ce qu'il appelle exactement les termes, je parle un instant Paola, une présentation, parce que la référence est une référence à Kant ici, vous allez l'entendre, une présentation sans concept de l'être universel.
Oui, mais ce que vous décrivez là...
Sans concept parce que...
Oui.
En quoi c'est kantien, ça ?
Parce que le beau est ce qui plaît universellement et sans concept.
Bravo, mademoiselle Cagnès, c'est bien. C'est au paragraphe 9 de la critique de la faculté de juger.
Dont on doit parler, Raphaël.
Nous parlerons de la critique de la faculté de juger, je vous le promets.
Non, ce qui m'a donné envie de vous interrompre quand vous décriviez l'espace chez Merleau-Ponty, c'est que justement, ce que vous disiez, habiter le monde, que le monde nous habite en même temps, ben c'est ça qui me semble radicalement différent du partès, extra-partès de Descartes ou de la spatialité selon Descartes, et radicalement, qui est un terme justement cartésien aussi, mais...
Oui, mais c'est un terme que Merleau-Ponty ne répugne pas à employer lui-même, d'ailleurs, à sa façon. Et il lui donne d'ailleurs, en un sens, un autre sens. Qu'opère Merleau-Ponty ? Je vais vous répondre, parce qu'effectivement, partès extra partès, hein, l'espace en morceaux, l'espace parcellisé, l'espace qui se soumet au sécateur de l'entendement et des concepts qui permet de découper dedans des parties homogènes et qui permet de les comparer, de les mesurer, de les pondérer, etc. etc. L'étape d'après, c'est faire pareil avec les sentiments. Et il faudra toute l'inventivité de Bergson pour expliquer que les sentiments ne sont pas quantifiables. Le partès extra partès de Descartes, on va voir comment Merleau-Ponty revient dessus. Merleau-Ponty opère ce qu'on appelle, amicuistre, bonjour, une réduction phénoménologique.
C'est-à-dire littéralement un retour aux choses mêmes. Il s'agit d'en revenir aux choses mêmes, aux phénomènes en tant que phénomènes, c'est-à-dire aux phénomènes qui, quand ils apparaissent, sont un événement. Vous vous souvenez de, dans l'éducation sentimentale, l'apparition de Madame Arnoux ? Frédéric Moreau est sur le bateau et tout à coup, il se retourne et « Ah, ce fut comme une apparition !» Ce fut comme une apparition. Voilà, Madame Arnoux est là et sa silhouette se découpe sur le fond bleu du ciel. Ce fut comme une apparition. C'est rendre raison de ça. Le jaillissement d'un phénomène. La merveille de son apparition. Et pour ça, il faut être avant tout jugement. Avant toute conceptualisation, pour faire droit à cette émotion-là, qui est une émotion, alors vraiment tout le monde y a accès, si vous voulez. Vous allez à la montagne, vous voyez le Mont Blanc apparaître, il est là. Vous allez au Parthénon, vous voyez le Parthénon, il est là, il n'y a rien de plus à dire, il apparaît, il est là, il s'impose à vous. Et on est dans un moment antéprédicatif, je veux dire, on est avant tout jugement, toute conceptualisation, toute théorisation, toute activité de synthèse. Il faut faire droit à ça. Et on est avant toute forme d'objectivité, toute ambition théorique, de maîtrise pratique, technique, etc. etc. Non, vous savez où on est ? On est dans la peinture. On est dans la peinture. On est dans ce que la peinture permet. La peinture comme un retour au phénomène. C'est-à-dire, on s'oppose ici, chez Merleau, à l'idée que le monde sensible n'est en définitive qu'une sorte, une apparence réfractaire à la vérité, un obstacle épistémologique, ce qui est un lieu commun sur les apparences. L'apparence, c'est le truc qu'il faut dissoudre pour rendre le monde conforme à une pensée qui, au fond, ne pense le monde qu'en se l'assimilant, qu'en lui imposant ses catégories, en le constituant, en le transformant en pensée. Au fond, Merleau-Ponty s'oppose au constructivisme cartésien, dont l'ambition est d'annuler l'apparence propre au phénomène, en tant qu'il se donne à voir, pour le digérer. Or, que fait la peinture ? L'inverse. Que fait la peinture ? Exactement l'inverse. La peinture nous replace dans l'être du monde sensible. Parce que, dit-il, le peintre peint avec son corps. Et c'est de l'intérieur que la peinture nous fait regarder les choses. Et alors, Merleau montre, par exemple, dans la phénoménologie de la perception, que l'existence est spatiale. Et il dit ceci, il dit « Notre rencontre primordiale avec l'être est d'emblée située et orientée. » Et c'est intéressant ce qu'il entend par « orientation » pour comprendre la différence avec Descartes. L'orientation chez Merleau, c'est l'incapacité où nous nous trouvons, où vous vous trouvez, où je me trouve, où nos auditeurs se trouvent, où Luc-Jean Reynaud, où Claire Levasseur se trouvent, où Alice Ramon, qui sont en studio au moment où nous nous parlons, c'est l'incapacité où chacun se trouve de décrire l'espace sans y être lui-même situé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est l'impossibilité d'adopter un point de vue qui serait l'absence de point de vue. Un sujet qui décrirait l'espace, qui aurait l'ambition de décrire l'espace sans s'intégrer à l'espace, sans faire partie lui-même de l'espace qu'il décrit, un sujet qui aurait cette ambition démesurée, divine, est un sujet qui ne s'orienterait pas dans l'espace. Or, il faut un point de départ, dit Merleau. Et Merleau, d'ailleurs, appelle ça un ici absolu. Il faut un point de départ, il faut un ici absolu qui donne de proche en proche un sens à toutes les déterminations de l'espace. Qu'est-ce que vous dites ? On est quelque part. Et l'orientation, c'est le propre d'un sujet qui habite l'espace. Nous habitons l'espace. C'est pas que nous sommes spatiaux. Nous ne sommes pas seulement spatiaux. Si vous voulez, on ne pense l'espace. On ne décrit l'espace. On ne se trouve dans l'espace que si on habite l'espace. C'est-à-dire que si nous sommes nous-mêmes spatiaux. Tout sujet est spatial. Aucun espace n'est construit par un sujet non spatial. On ne comprend jamais l'espace quand on se retire dans une perception sans monde. Toute chose perçue est perçue depuis un monde, depuis le monde de celui qui l'aperçoit. Et voyez, il y a deux définitions ici de l'espace. Vous avez l'espace clair, l'espace, vous l'avez dit tout à l'heure, partes extra partes, l'espace homogène de la perception, l'espace qu'on découpe, qui est en fait l'espace construit par un sujet qui voudrait lui-même n'avoir aucun corps, c'est-à-dire n'être orienté nulle part. Et puis, il y a l'espace sombre, dit Merleau, l'espace d'enveloppement, l'espace dont les parties, dit-il, ne sont pas déployées les unes à côté des autres, mais enveloppées les unes dans les autres. Et vous savez, deux petites remarques avant de lire un petit texte de la phénoménologie de la perception que j'aimerais que vous puissiez lire, Paola, si vous voulez. Sinon, on demandera à Jean-Louis, mais ce serait bien que vous le lisiez, vous. Juste deux petites remarques, Paola. La première, c'est que, en général, la philosophie, en tout cas avec Descartes, est un effort vers davantage de clarté. Or, avec Merleau, on gagne du terrain, et on chemine et on avance, quand on gagne en obscurité,
quand on s'enfonce dans l'obscurité, quand on assume l'obscurité ou l'ambiguïté. Ça, c'est un premier point, c'est très important. Deuxième, c'est la 3D. Pourquoi la 3D, ça marche pas? Pourquoi c'est bidon, la 3D? Parce que la 3D, justement, ne permet pas de penser ce que Merleau décrit comme un espace d'enveloppement, c'est-à-dire cette solidarité des phénomènes entre eux. La 3D découpe les phénomènes et les juxtapose sur plusieurs plans qui sont des plans disparates, qui sont des plans géométriquement séparés. Et c'est pour ça que la 3D ne nous permet pas de sentir, par exemple, la communion des éléments qu'on trouve dans Citizen Kane au moment où Citizen Kane rentre dans la chambre et que Suzanne Alexander s'est suicidée. On a au premier plan le narcotique, au deuxième plan Suzanne Alexander et au troisième plan Citizen Kane qui rentre. Et en fait, dans cette seule image, Orson Welles décrit toute une tragédie, une scène de théâtre, une tentative de suicide, etc., etc. Et tout ça est décrit parce que tout ça est solidaire et présenté en un sens sur un même plan qui est un plan d'espace d'enveloppement. Si c'était en 3D, si Citizen Kane était passé sur les écrans en 3D, on ne verrait plus rien. Et au fond, c'est ce que dit Merleau ici, c'est que l'espace d'enveloppement doit l'emporter sur l'espace tel que la géométrie le décompose.
Si je me tiens debout devant mon bureau et que je m'y appuie des deux mains, seules mes mains sont accentuées et tout mon corps traîne derrière elles comme une queue de comète. Ce n'est pas que j'ignore l'emplacement de mes épaules ou de mes reins, mais il n'est qu'enveloppé dans celui de mes mains et toute ma posture se lie, pour ainsi dire, dans l'appui qu'elles prennent sur la table. Si je suis debout et que je tienne ma pipe dans ma main fermée, la position de ma main n'est pas déterminée discursivement par l'angle qu'elle fait avec mon avant-bras. Mon avant-bras avec mon bras. Mon bras avec mon tronc. Mon tronc, enfin, avec le sol. Je sais où est ma pipe d'un savoir absolu. Et par là, je sais où est ma main et où est mon corps. Comme le primitif dans le désert est à chaque instant orienté d'emblée, sans avoir à se rappeler et à additionner les distances parcourues et les angles de dérive depuis le départ. Le mot « ici », appliqué à mon corps, ne désigne pas une position déterminée par rapport à d'autres positions ou par rapport à des coordonnées extérieures, mais l'installation des premières coordonnées, l'ancrage du corps actif dans un objet, la situation du corps en face de ses tâches.
Vous voyez comme c'est facile, comme c'est clair, d'abord comme c'est beau. Tout mon corps traîne derrière elle comme une queue de comète. Une position déterminée par rapport à d'autres positions. L'installation des premières coordonnées, c'est pas beau ça? C'est génial, l'idée d'un corps propre installé quelque part. Moi je trouve ce texte bouleversant dans la phénoménologie de la perception, Paola.
Et si Descartes avait voulu expliquer un petit peu la même chose à propos de son corps, en quels termes, avec quel lexique il l'aurait fait? Quelle aurait été la différence fondamentale entre les deux?
Il me semble qu'il l'a fait. Puisque la première méditation métaphysique, finalement, c'est ça. Hein. C'est un homme qui est là, qui constate la présence d'un corps dont il ne sait pas, dont il n'est pas absolument certain de l'existence ou de la consistance. En droit, il peut en douter. Donc, il y a ce doute fondamental qui est au fond une question que Merleau, en un sens, ne se pose pas. C'est quand même la grande différence. Mais Descartes, il a fait cette entreprise de description de lui-même. C'est une philosophie extrêmement incarnée. Vous savez, il y a des grands paradoxes comme ça dans l'histoire des idées. Descartes, c'est une philosophie très incarnée. C'est une philosophie incarnée de la désincarnation. Alors que Socrate, par exemple, c'est un philosophe sensuel de l'abandon de la sensualité au profit du savoir. Merleau, c'est une philosophie incarnée de l'incarnation. De ce point de vue, d'ailleurs, il est plus cohérent que ses illustres prédécesseurs. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est une sorte de double appartenance, qui est une tension propre au système de Merleau. Parce que dit Merleau? Dès que je veux thématiser l'espace corporel ou en développer le sens, je ne trouve en lui que l'espace intelligible. Mais en même temps, cet espace intelligible n'est pas séparé de l'espace orienté. L'espace intelligible n'en est que l'explicitation.
Et détaché de l'espace orienté, il n'a absolument aucun sens. Si bien que l'espace homogène ne peut expliquer le sens de l'espace orienté que parce qu'il l'a reçu de lui. En d'autres termes, c'est parce que je suis quelque part que j'ai cette ambition, si vous voulez, de composer l'espace de manière homogène. C'est-à-dire de le mettre à portée de mon intelligence, au fond. De réduire à mon intelligence. Donc, du point de vue de l'absence de point de vue, c'est-à-dire du point de vue réflexif, strictement réflexif, l'espace vrai est un espace intelligible, partes, extra partes, etc. Tandis que l'espace existentiel, l'espace d'enveloppement, se donne comme une modalité subjective de l'objectivité du premier. Bon. Mais en réalité, si vous voulez, l'espace homogène qui se présente comme la condition d'un espace subjectif est en réalité un effet. Parce que la pensée objective, elle se nourrit de l'irréfléchi. Que dit Merleau ? Très simplement. On ne pense pas sans penser quelque part. Il faut être quelque part pour penser. On ne pense pas depuis nulle part. Voilà.
Raphaël, ouais. Ça serait le cogito un petit peu de Merleau-Ponty ?
Oui, oui. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le cogito de Merleau-Ponty, dans cette espèce de cartésianisme de l'intimité. Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Merleau déploie une pensée pré-réflexive, donc en amont de toute ambition réflexive, et c'est pourtant une pensée qui repose sur un cogito. Mais le cogito, c'est pas comme chez Descartes, c'est-à-dire le cogito cartésien a la valeur d'une décision inaugurale qu'on découvre, mais qui se présente quand on la découvre comme inaugurale et qui, en un sens, nous sépare du monde en nous donnant les moyens de le penser. Chez Merleau, le cogito a la valeur d'un phénomène originaire, comme pour Descartes, mais c'est un phénomène originaire qui m'attache au monde. C'est ce qu'il appelle un « il y a » préalable. C'est-à-dire qu'il y a un cogito, mais c'est une reformulation du cogito. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, d'ailleurs, chez Merleau, on appelle ça la diplopie. Chez Merleau, c'est intéressant. La diplopie, c'est quoi ? C'est le fait d'osciller en permanence entre une sorte de naturalisme qui exprime notre condition ici, maintenant, notre corps présent ici et là, bon, ici surtout, et de l'autre côté, une sorte de dimension transcendantale où toutes les servitudes sont levées parce qu'il y a un esprit absolu qui viendrait mettre tout ça en ordre. Il y a, chez Merleau-Ponty, l'intuition d'une sorte de strabisme, qui est en fait le strabisme de l'ontologie occidentale, c'est-à-dire le strabisme de tout discours sur l'être, l'Occident. Mais Merleau refuse de supprimer un terme au profit de l'autre. Il tient bon sur les deux ambitions, au fond. Et c'est ça qui est très fort chez lui. C'est qu'il critique la désinvolture de la science, par exemple. D'ailleurs, c'est une drôle d'expression hein, quand on parle de désinvolture de la science. Et dans le même temps, il ne renonce pas pour autant à connaître le monde, à le penser.
Ben voilà, pour retourner à cette opposition de départ sur laquelle on a commencé, peinture-science, mais justement, le mot de désinvolte peut être étonnant parce qu'on a plutôt l'habitude de penser que la science fait les choses avec sérieux.
C'est là qu'elle est désinvolte.
Et c'est là qu'elle est désinvolte,
ouais,
c'est ça ?
C'est là qu'elle est désinvolte. C'est ça qui est intéressant. Elle est désinvolte quand elle se prend au sérieux. C'est presque nietzschéen comme histoire, là. Elle est désinvolte parce qu'elle se prend au sérieux. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement désinvolte, faire peu de cas du monde pour le tenir pour prédestiné à nos artifices. C'est être désinvolte, au fond, de prendre ses désirs pour des réalités à la façon dont la science entend régler le monde selon les catégories de l'entendement.
Donc la désinvolture n'est pas ici un autre mot pour parler de légèreté ou de...
Non, c'est une forme de négligence, au fond. C'est une façon de négliger ce qui compte, c'est-à-dire ce qui n'a pas de prix, c'est-à-dire ce qui existe. C'est une façon de négliger l'existence au profit de son essence. D'ailleurs, Descartes n'arrive pas à démontrer l'existence des choses matérielles. Il peut en déconstruire l'essence, démontrer l'essence, mais l'existence, il se casse la gueule toujours. Et désinvolte, un espace qui renoncerait à, si vous voulez, et désinvolte une démarche qui réduirait le monde à son homogénéité, au lieu de s'abreuver à la source vive de la spatialité même de l'existence, quoi, de l'expérience spatiale que fait mon corps ici et maintenant, d'un monde dont la connaissance est inséparable de l'expérience que j'en fais. Le cogito de Merleau-Ponty, pour en revenir à votre question, hein, le cogito de Merleau, vous voyez, n'est pas... À chaque fois que je dis Merleau, je pense au vin, je pense au Merleau. Une bouteille de Merlot pour moi. C'est pour ça que Merleau-Ponty m'a toujours été extrêmement sympathique. Dans un registre d'associations d'idées, à chaque fois que je pense Merlot, je pense alcool délicieux.
Mais il y a une forme d'ivresse dans la pensée de Merleau. C'est pour ça qu'il ne faut pas être découragé par ce qu'il raconte. Ça ne s'écrit pas pareil, hein, mais bon, Merleau, ici, c'est M-E-R-L-E-A-U. Personne n'est parfait. Mais il y a quelque chose d'enivrant dans cette pensée. Le cogito de Merleau a une épaisseur. Il a une opacité, alors que le cogito de Descartes, il est transparent. Il a une épaisseur, il a une opacité. Merleau, il souille le cogito. Il lui attribue une épaisseur temporelle. Il est du côté des vérités qui doivent pourrir, cher à Camus, vous voyez. Le cogito n'est pas le fondement transcendantal de la lumière du monde. Non, le cogito de Merleau, il se situe en amont de ces bifurcations traditionnelles entre l'essence et l'existence, entre l'individu et l'universel, entre le nécessaire et le contingent. Non, c'est une pensée de l'être qui se situe en amont de la différence entre le visible et l'invisible, entre l'immanent et le transcendant. Alors, c'est un cogito, c'est fondamental, parce que c'est en amont de tout ça. Mais en amont de tout ça, il y a ce cogito qui n'est pas transparent, qui est un peu sale, qui sent la peinture. Et c'est ça le cogito de Merleau. Vous savez, le cogito, c'est ce qu'il appelle un « il y a préalable », c'est l'idée qu'il y a de l'être pour moi. Et ça n'est pas ce qu'il appelle un retour idéaliste à la conscience, c'est-à-dire une façon de fonder la vérité de l'apparence sur la transparence à soi de l'esprit. Non, le cogito est plus sale que ça. Il est plus... Au fond, il s'agit de remplacer, vous savez, chez Descartes, dans les méditations métaphysiques, Descartes a une... C'est une des difficultés du cartésianisme, enfin de la pensée de Descartes. Il pense une coïncidence à soi. Penser, c'est penser qu'on pense. C'est une pensée qui se pense elle-même. En sorte qu'il faudrait être à la fois ici et là, au fond, pour se penser soi-même pensant. Au même instant, au même moment. Il faudrait qu'il y ait deux lignes du temps, en définitive, pour coïncider avec soi. Quand on est temporel, on ne peut pas coïncider avec soi. D'où l'objection de Gassendi à Descartes. Vous ne pensez pas que vous pensez que vous avez pensé. Donc ça ne marche pas à votre histoire. Merleau, lui, continue de maintenir l'idée d'une coïncidence à soi. Mais cette coïncidence, elle ne se fait pas dans la transparence, elle se fait dans l'expression, dans ce qu'il appelle l'expression, c'est-à-dire la peinture, dans un intérieur qui se révèle au dehors, un temps vivant, une action en train de se faire. Le cogito est uni à la temporalité. C'est, dit-il, une évidence opaque. Et ça, c'est magnifique. Voilà, c'est une évidence opaque. Et on est avec Merleau toujours dans ces tensions. C'est étonnant. Rien n'est clair. Rien n'est clair chez Merleau. Rien n'est transparent. Et parler de lui, c'est faire droit à cette obscurité. Et c'est très difficile d'en parler. Parce que c'est à la fois parler de l'expérience que nous faisons au monde, notre présence au monde nous donne l'ambition de le connaître, comme si nous n'y étions pas. Et dans le même temps, nous ne pouvons pas le connaître sans l'éprouver. Et aurions-nous l'idée de le connaître si nous ne l'éprouvions pas? Donc, il fait droit à ces deux dimensions de l'existence et il le fait en permanence. Et c'est fou, ça, de voir à quel point le cogito, par exemple, est inscrit dans l'horizon de la naissance et de la mort. Le cogito de Merleau, il est en amont de toute pensée, mais il n'efface pas le doute, il n'efface pas l'incertitude, il n'efface pas le clair-obscur de l'existence.
Juste comme ça, c'est drôle parce que Merleau-Ponty a écrit un essai qui s'appelle « Le doute de Cézanne » dont on aura peut-être l'occasion de parler un moment au cours de l'émission sur Merleau-Ponty.
Mais oui, mais c'est étonnant parce que dans l'essai dont vous parlez, on ne sait pas exactement ce qu'il désigne par le doute de Cézanne. On peut le dire tout de suite, hein, d'ailleurs. Au fond, le doute de Cézanne est une façon pour Cézanne de faire droit aux deux sens de perspective, à la fois le sens scientifique, mathématique de la perspective, et en même temps l'idée que la perspective est un point de vue sur le monde, d'où ces perspectives tremblées, ces perspectives faussées. C'est pas parce que Cézanne peint moins bien que Fra Angelico qu'il trahit les lois de la perspective quand il représente une table, un bureau ou une pomme. C'est parce qu'il fait droit, dans la représentation qu'il en donne, à ce qui dans l'objet ne relève pas justement de la représentation, mais relève de l'expérience que nous pouvons en faire, et en fait, de l'expérience que l'objet lui-même fait de nous. Et le doute de Cézanne, il est là. L'article dont vous parlez, dont on reparlera, hein, sur lequel on reviendra, on le trouve au début du recueil, il s'appelle « Sens et non-sens ». qui existe en NRF, et c'est le premier chapitre, ça s'appelle « Le doute de Cézanne ». Vous avez tout à fait raison de le citer.
Il faut que la pensée de science, pensée de survol, pensée de l'objet en général, se replace dans un « il y a » préalable, dans le site, sur le sol du monde sensible et du monde ouvré, tels qu'ils sont dans notre vie, pour notre corps. Non pas ce corps possible dont il est loisible de soutenir qu'il est une machine à information, mais ce corps actuel que j'appelle mien, la sentinelle qui se tient silencieusement sous mes paroles et sous mes actes. Il faut qu'avec mon corps se réveillent les corps associés, les autres, qui ne sont pas mes congénères, comme dit la zoologie, mais qui me hantent, que je hante, avec qui je hante un seul être actuel, présent, comme jamais animal n'a hanté ceux de son espèce, son territoire et son milieu. Dans cette historicité primordiale, la pensée allègre et improvisatrice de la science apprendra à s'apesantir sur les choses mêmes et sur soi-même, redeviendra philosophie. Or, l'art, et notamment la peinture, puisent à cette nappe de sens brut dont l'activisme ne veut rien savoir.
Sagra était une merveille baroque, une collision improbable et inquiétante de la nature et de l'art. De très anciens canaux souterrains, par leurs pierres disjointes, avaient fini par faire sourdre, à travers les rues, les eaux sous pression d'une source jaillissante qu'ils captaient à plusieurs milles de là. Et lentement, avec les siècles, la ville morte était devenue une jungle pavée, un jardin suspendu de troncs sauvages, une gigantomachie déchaînée de l'arbre et de la pierre. Le goût d'Orsena pour les matériaux massifs et nobles, pour les granites et les marbres, rendait compte du caractère singulier de violence prodigue et même d'exhibitionnisme que revêtait partout cette lutte. Les mêmes effets de muscles avantageux que dispense un lutteur forain se reflétaient à chaque instant dans la résistance ostentatoire, dans le porte-à-faux qui opposait ici un balcon à l'enlacement d'une branche, là un mur à demi déchaussé, basculé sur le vide, à la poussée turgescente d'un tronc, jusqu'à dérouter la pesanteur, jusqu'à imposer l'obsession inquiétante d'un ralenti de déflagration, d'un instantané de tremblement de terre.
Pourquoi avoir choisi de lire cette page du Rivage des Sirtes de Julien Graffel?
Mais pourquoi pas? Parce que je trouve ça beau.
Oui, mais je vous connais et je suis sûre qu'il y a une raison quand même plus profonde.
Si vous me connaissez, vous en savez plus que moi. Écoutez, en fait, ce passage du Rivage des Sirtes, la description que Grac propose des ruines de Sagra, qui est une ville en ruine, donc visite le personnage, Aldo. Cette description qu'il propose me semble exprimer au mieux cette façon dont un corps, quand il se replace dans un « il y a » préalable, sur le sol du monde sensible, du monde ouvré, comme il dit, quand un corps qui n'est plus une machine à information, mais se donne comme une sentinelle, au fond, c'est ce que ce corps qui se vit comme une sentinelle est capable de dire du monde, de sentir du monde, de percevoir du monde et de laisser entendre du monde à travers lui. Et ce qui est intéressant ici, c'est à double titre en fait que j'ai lu cet extrait en sortie du texte qu'on vient d'entendre de Merleau, parce que d'abord, c'est l'idée de sentinelle qui m'en a donné l'intuition. Tout le Rivage des Sirtes de Julien Gras, qui est un roman admirable, repose sur le paradoxe du qui-vive, une sorte de vigilance qui finit, à la façon d'un hasard objectif chez les surréalistes, par produire l'événement qu'il attend, au fond, ou par transformer le moindre fait, le plus anodin, en événement. Donc, c'est l'idée de qui-vive qui me vient du mot de sentinelle, sur lequel il faudra qu'on revienne dans le texte de Merleau-Ponty. Et c'est parce qu'il est sur le qui-vive qu'il voit tout cela. Et que voit-il? Il voit un instantané de tremblement de terre, c'est-à-dire il voit un mouvement sous la forme fixe, sous une forme fixe, sous une forme stable. Or ça, c'est le génie propre de la peinture chez Merleau. Parce que fait la peinture? La peinture ne fait pas seulement parler les objets au sens où on leur attribuerait une parole ou une intention ou une pensée. Non, elle laisse entendre, elle laisse parler les objets qui sont avides de parler. Elle est le micro tendu aux objets. Et l'une des modalités dont la peinture, que la peinture emprunte au fond pour laisser parler les objets, pour leur tendre le micro, c'est de restituer le mouvement avec les outils de la fixité. Par exemple, dans le fameux Derby d'Epsom dont parle aussi Merleau-Ponty, où les chevaux ont son jambe avant tendue et jambe arrière tendue, ce qui permet à Géricault de peindre le mouvement, alors que le tableau est immobile, donc il restitue le mouvement avec des outils fixes. Or, que fait Gracq ici? Exactement la même chose. Il décrit dans cette gigantomachie déchaînée, cette gigantomachie déchaînée de l'arbre et de la pierre. C'est un combat, une gigantomachie, c'est un combat de géant, mais c'est un combat immobile. L'arbre et la pierre sont pas en train de... Ils sont en train de se battre, mais ça bouge pas, en tout cas. À l'œil de l'homme, on ne les voit pas bouger. La nature reconquiert lentement ses droits sur une ville en ruine, mais on les voit pas bouger. Mais tout témoigne d'un mouvement qu'un œil suffisamment attentif, c'est-à-dire suffisamment incarné et humble à la fois, est susceptible de percevoir. Et je crois qu'on est là dans ce que Merleau-Ponty appelle la sentinelle, c'est-à-dire une forme de qui-vive qui laisse entendre le monde, si vous voulez. On respire mieux quand on comprend ça.
Ce que vous disiez quand vous parliez de tendre un micro aux objets m'a évoqué juste une belle référence, enfin vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé lire et qui est L'œil écoute de Paul Claudel, qui est un essai sur la peinture hollandaise. Et justement, il parle de ça, il dit qu'il y a des peintures qui s'écoutent plus qu'elles ne se voient. Et je trouvais que c'était très, très, très juste, voilà.
Ah oui, en effet, d'autant que chez Merleau, oui, en effet, oui, bien sûr, vous avez raison, l'œil écoute. Mais on est dans un univers de synesthésie, puisqu'à la seconde où on laisse parler le monde, où on fait parler le monde, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Et le monde est rendu à sa merveille native. On est dans un espace d'empiètement, de recouvrement. On n'est plus dans l'espace homogène. Un cartésien de stricte obédience vous dirait « Qu'est-ce que ces conneries de parfums, de sons, de couleurs qui se répondent ? Ça ne parle pas la même langue. On ne compare pas des choux et des haricots. » Eh bien, si. Ou plus exactement, non, on ne les compare pas, mais on les mélange. On éprouve leur mélange, on éprouve leur coprésence. Certes, ils sont à deux endroits différents de l'espace, mais ils empiètent, comme les couleurs empiètent. Et chez Merleau, la couleur l'emporte sur le trait. Parce que précisément la couleur exprime cet empiètement des choses les unes sur les autres. Et cet empiètement, il me semble, est parfaitement décrit ici dans la description que Gracq propose des ruines de Sagra.
D'ailleurs, dans le mot sentinelle, qu'au départ j'avais du mal à saisir pourquoi est-ce qu'il utilise ce mot sentinelle silencieuse, mais il y a le terme de senti dans sentinelle.
Vous avez l'oreille quand même. Effectivement, on entend senti dans sentinelle. C'est pas du tout l'étymologie, hein, d'ailleurs, hein, ça n'a rien à voir. Mais l'idée de senti s'entend chez Merleau est très très importante. On aura l'occasion de revenir dessus, mais pour le dire très vite, si vous touchez votre propre main, vous sentez et vous êtes sentant. Vous êtes sentant, puisque vous sentez votre main, et dans le même temps, vous êtes senti. Vous vous sentez sentant. Si vous voulez, ce qui est une expérience fondamentale, puisque c'est au fond une... Et c'est intéressant, parce que cette expérience qui pourrait, en un sens, ressembler à une clôture sur soi, d'un individu qui se referme sur lui-même, qui se prend ses propres mains. Au lieu de serrer la main d'un autre, il serre sa propre main. Faut-il être égoïste pour faire une chose pareille, si vous voulez? Faut-il être peu cordial, peu civil, peu ouvert sur l'altérité pour se serrer sa propre main?
Jacques Brel, je l'ai connu lorsqu'il était présent dans nos capitales d'Europe, spécialement à Paris. Et les thèmes que je retrouve dans le disque d'aujourd'hui formaient déjà le fond de sa conversation. La différence, c'est que maintenant, il a vécu tout ce qu'il dit. Il se contentait à l'époque de le projeter. Maintenant, c'est sa vie, c'est sa solitude, c'est son voyage, ce sont ses questions.
Souvenez-vous de François Mitterrand, qui se caressait l'intérieur des doigts quand il passait à la télé.
Souvenez-vous.
Oui, ça va, hein. Faites pas la maline. Il est mort en 96, vous êtes né quand, vous?
En 94.
Je suis encore en droit de vous poser cette question. Vous êtes né en 94, donc vous avez été contemporaine de François Mitterrand. Et donc, mais peut-être votre mémoire ne l'était-elle pas, Mitterrand avait ce geste de passer ses doigts à l'intérieur de ses doigts. Et ce geste qui est familier à tous, sauf à vous, est un geste typiquement merleau-pontien, qui est en fait une façon pour l'individu de se saisir lui-même à la fois comme voyant et visible. Et c'est le paradoxe du corps chez Merleau. On reviendra dessus, hein, mais c'est le paradoxe du corps, c'est-à-dire que c'est l'idée que mon corps est à la fois voyant, puisque c'est lui qui voit, mais il est visible, il fait partie du monde visible. Et cette double appartenance, le régime de cette double appartenance, détermine toutes les obscurités de la pensée de Merleau et l'ambition qui est la sienne de penser les choses mêmes, ou de se situer à l'intérieur des choses mêmes, d'être de penser cette impensée que sont les choses mêmes. Et ça lui permet de distinguer le corps objectif,
c'est-à-dire le faisceau de fonctions organiques avec ses constructions universelles, abstraites, la science qui le réduit à un complexe d'informations physico-chimiques, donc le corps objectif, cette version sophistiquée du corps-machine de Descartes, ça lui permet de distinguer ça du corps qui existe, c'est-à-dire du corps qui n'est pas seulement un simple morceau d'espace, qui ne se schématise pas sur une étendue rigoureusement géométrisable, mais qui, plus que cela, dont les mouvements sont irréductibles au vecteur de déplacement d'un volume dans un espace orthonormé, si vous voulez. C'est plus intéressant que ça. Mon corps est toujours déjà là. C'est un corps propre, c'est un corps agissant, c'est le sol même de mon existence. Et ça, c'est là que le corps devient une sentinelle. C'est ce qui lui permet de penser que le corps est un... d'un côté, un corps parmi les autres, une chose visible qui adhère au paysage, et de l'autre côté, un corps qui tient les choses en cercle autour de lui, dont les choses sont comme une annexe, un prolongement de lui-même, parce qu'elles sont incrustées dans sa chair. Le monde, dit Merleau, qui en fait c'est une référence à Shakespeare, est fait de l'étoffe même du corps. Vous savez, dans La Tempête, le personnage de Prospero dit à un moment « We are such stuff as dreams are made on... » Attendez. Nous sommes faits... vous savez, dans la Tempête, le personnage de Prospero dit « Nous sommes faits de l'étoffe même de nos rêves. » Et ici, nous sommes faits de l'étoffe même du monde. Tout se résume en un paradoxe. Hein. Comment rencontrer le monde dont nous faisons partie? Et la phénoménologie permet de penser ça. Parce qu'elle emprunte au cartésianisme cette séparation du monde qui nous permet de le rencontrer, et elle déconstruit suffisamment l'idée d'une conscience transparente à elle-même pour assumer notre appartenance au monde. Donc nous appartenons au monde tout en ayant les moyens de le rencontrer. Et cette tension-là que Merleau s'attache à ne jamais résoudre lui permet, lui donne accès à des choses que seuls les peintres ou les poètes ou les musiciens sont capables de voir. L'œil et l'esprit, la philosophie de Merleau-Ponty est une belle, magnifique tentative de tirer la philosophie du côté de l'art. Il dit à un moment, si je tends mon bras et que je le regarde, je vois mon corps et au bout de mon bras, le monde. Les deux me sont visibles. Je peux dire à la fois que mon bras est tout contre moi, c'est le mien, et en même temps qu'il est à distance. Eh bien voilà. On est tout contre soi et en même temps, on est à distance.
Je voulais, si on a encore un peu de temps, revenir sur la différence entre ce corps possible et ce corps actuel dont parle Merleau-Ponty dans le texte qu'on a entendu. Parce que donc ce corps possible hein, dont il dit que c'est une machine à information, et ce corps actuel que vous avez décrit comme corps qui est dans le monde, dans cet il y a préalable. Et alors, figurez-vous que ça m'a évoqué une référence qui n'est peut-être pas Julien Gracq. Hein. C'est un réalisateur dont on a déjà parlé dans Le Gai Savoir, c'est Cronenberg. Et donc dans un de ses derniers films, Cosmopolis, figure justement un petit peu ce passage du corps possible au corps actuel.
Pourquoi le dites-vous ? Alors, il faut rappeler quand même pour nos auditeurs que Cosmopolis, donc, c'est tiré de l'ouvrage de Don DeLillo. Et c'est un individu qui, dans une voiture monade, traverse, traverse la cité comme ça et déchoit. Il est milliardaire au début et à la fin, il finit dans la rue. Oui.
Et voilà, et il y a vraiment une évolution parce que dans le corps de l'acteur, je ne me souviens pas du nom du personnage, mais en tout cas, il passe donc, il est pendant toute une partie du film totalement emprisonné dans sa limousine. Il voit le monde à travers les vitres de la limousine, il sort à peine. Et puis, il est vraiment ce corps machine d'information, hein, parce qu'il a en tête toujours le cours de la bourse, il sait tout, il sait exactement tout sur tous les gens qui l'entourent, sur toute la ville. Et puis, au fur et à mesure du film, il finit par, il y a une sorte de dégradation, la voiture est salie, il finit par sortir de la voiture, il marche à pied, il va vraiment dans le monde parce qu'il va dans un petit coiffeur de Brooklyn ou je sais pas dans quelle ville ça se passe, puis il finit par aller dans un squat où il rencontre un peu un clochard qui veut sa peau, etc. Donc il finit vraiment par se retrouver au sein, dans le monde, quoi. Et il passe donc de son statut de milliardaire derrière la vitre de la limousine au squat, je ne sais pas de quelle ville, Chicago.
Il y a un autre film qui exprime ça, c'est Holly Motors.
Exactement.
Sauf que Holly Motors rejoue cette scène 10 fois, puisque le personnage incarné par Denis Lavant est tantôt une vieille dame, tantôt un maître de kung-fu, tantôt... Enfin, vous voyez, il incarne tous les personnages dès qu'il sort de sa voiture. Mm. Ça commence, il est milliardaire, il donne rendez-vous aux Fouquettes le soir même, et puis l'instant d'après, c'est une vieille dame qui mendie, et puis c'est un fou furieux qui dévore les individus, et puis c'est... Enfin, voilà, c'est un peu la même histoire. Mais attention, parce que il ne s'agit pas tant, je crois... chez Merleau-Ponty, d'abjurer une définition du corps au profit d'une autre. Mais de lester notre corps transparent, ou plus exactement ce corps si absent de lui-même en définitive que le monde nous semble homogène et qu'on pose sur lui un regard presque désincarné, que nous désincarnons le monde à mesure que nous n'éprouvons pas notre corps, de souiller cette instance pour montrer à quel point notre regard sur le monde est solidaire de l'expérience que nous faisons du monde. Mais, encore une fois, il reste cartésien. Il ne renonce pas à l'ambition de regarder. Seulement, ce qu'il dit du regard, c'est-à-dire chez Merleau-Ponty de la vision, ce passage d'un corps objectif à un corps phénoménal n'est pas une abjuration du corps objectif. C'est un mélange des deux. C'est comment retrouver un contact naïf avec le monde, un contact en deçà des constructions, des idéalisations de la science. Comment retrouver ce qu'il appelle une ouverture originelle à l'être, à la vérité, une insertion dans le monde qui éveille finalement le monde. Il parle d'un corps opérant et actuel, celui qui n'est pas un morceau d'espace, un faisceau de fonction, mais qui est un entrelacs de vision et de mouvement. Vous vous souvenez de ce que je vous disais du sentant et du senti ? Voilà le texte. « Quand je touche ma main droite avec ma main gauche, l'objet main droite a cette singulière propriété de sentir lui aussi. Quand je presse mes deux mains l'une contre l'autre, il ne s'agit donc pas de deux sensations que j'éprouverai ensemble comme on perçoit deux objets juxtaposés, mais d'une organisation ambiguë où les deux mains peuvent alterner dans la fonction de touchante et de touchée. Dans ce paquet d'os et de muscles qu'est ma main droite pour ma main gauche, je devine un instant l'enveloppe ou l'incarnation de cette autre main droite, agile et vivante, que je lance vers les objets pour les explorer. » Merleau est un philosophe de l'entrelacs. Il mélange l'existence personnelle à l'existence impersonnelle, où l'homme n'est plus qu'un simple organisme. Il mélange la nature et ce qu'il faut bien appeler la liberté. Il mélange l'aptitude à transcender le monde par la liberté dont je fais preuve, par la liberté qui est la mienne de sécréter du sens, par exemple, et la nature, c'est-à-dire le fait de participer de la nature dans laquelle je suis jeté, comme un esprit captif. Il mélange ces deux dimensions de l'être, et il le fait en permanence.
Raphaël, il reste à peine quelques minutes, je vois,
Je sens qu'on va faire avec Merleau-Ponty ce qu'on a fait avec Montaigne, hein, Paola.
Parce qu'on a à peine parlé de Cézanne et de peinture.
On n'a même pas parlé de Cézanne, ouais, c'est ça. Ouais.
C'est un peu embêtant. Mm-hmm. Mais alors, du coup, je vais pouvoir poser ma dernière question.
En
attendant la reprise, parce que dans le texte qu'on a entendu, la dernière phrase, par contre, je ne l'ai pas très bien comprise. pour une raison. Donc, je la rappelle avant, il dit « Or, l'art, et notamment la peinture, puise à cette nappe de sens brut dont l'activisme ne veut rien savoir. »
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans?
Qu'est-ce que vient faire? De quel activisme il parle?
C'est la volonté, c'est le volontarisme, c'est le goût de modeler le monde à notre... ça peut être
c'est
à la fois...
C'est le volontarisme cartésien aussi, alors, du coup.
Oui, cartésien, si vous voulez. C'est le goût de c'est plein de choses, l'activisme. D'abord, c'est l'agitation. C'est l'agitation qui nous fait mener une existence pelliculaire, une existence de surface. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'agitation quotidienne et monotone de nos vies. Mais c'est aussi l'activisme volontariste de celui qui veut imposer par la force de sa volonté, par sa ténacité, par sa pugnacité, comme dirait Jean-Pierre Raffarin. C'est volonté au monde et ne pas se laisser dicter. C'est celui dont le mot de fatalité ne fait pas partie du vocabulaire, si vous voulez, l'activiste. Or, l'activisme, qui est une modalité du désir de prendre ses désirs pour des réalités, justement, ou en tout cas de ne pas s'en laisser compter par le monde, cet activisme manque tout. C'est-à-dire manque cette nappe de sens brut que constitue la coalescence de mon corps et du monde. Ce mélange de mon corps et du monde, toutes les informations, et le mot lui-même est illégitime et impropre ici, toutes les informations qui me viennent, qui me parviennent quand j'accepte l'immersion, l'incarnation de mon corps et cette double appartenance qui fait de lui un être voyant et visible à la fois. Cet activisme manque ce que Bergson appellerait l'intuition philosophique, cette forme supérieure de candeur, d'humilité qui permet de regarder le monde avec une modalité virginale presque, c'est-à-dire de faire un effort pour rejoindre le monde, non pas par l'intelligence, mais par l'instinct, par l'intuition, d'assister. Vous savez, chez Merleau-Ponty, il y a l'idée d'un espace d'empiètement, d'un recouvrement des éléments de l'espace. Chez Bergson, qui est un philosophe du temps, c'est un peu différent, mais chez Bergson, ça prend la forme d'une complication qui diminue, des parties qui entrent les unes dans les autres, avant de se ramasser en un point unique, souvenez-vous, c'est dans l'intuition philosophique. Ce que l'activisme ignore, ce que l'activisme méconnaît, c'est la puissance de connaissance, la qualité du savoir qui va avec l'immersion, le fait d'assumer l'immersion de mon corps dans le monde. Ce que l'activisme méconnaît, c'est la simplicité. L'activisme simplifie le monde et par conséquent nous éloigne incurablement de la simplicité dont nous sommes capables quand nous nous laissons aller à exister.
Je m'appelle Zangara et je suis lieutenant au fort de Bellanzio qui domine la plaine. D'où l'ennemi viendra qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois.
Merci Paola, merci à tous. C'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine donc pour continuer cette promenade dans l'œil et l'esprit.
D'amour et moi de mes chevaux. Je m'appelle Zangara et déjà capitaine au fort de Bellanzio qui domine la plaine d'où l'ennemi viendra qui me fera héros.
Et merci à Luc-Jean Reynaud, notre réalisateur, à Claire Levasseur, à la technique, à Alice Ramon évidemment, notre attaché de production, de Sagra à Zangara, c'était le programme du jour.
Je vais au bourg voir la jeune Consuelo, mais elle parle d'amour et moi de mes chevaux.
On se retrouve dimanche prochain donc, et en attendant sur internet, évidemment à la page du Gai Savoir ou sur Facebook où vous attendent téléchargement, bibliographie, ainsi que l'écoute en ligne de l'émission.
En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois.
Si vous vous ennuyez cette semaine, retrouvez les nouveaux chemins de la connaissance, la philosophie inventive, tous les jours sur France Culture, tous les matins, de 10h à 11h sous la houlette érudite d'Adèle Van Rett.
À mes amours, et moi, à ses chevaux.
Et puis, lisez L'œil et l'esprit, même si vous n'en comprenez pas tout. Ce drôle de livre dont on reparlera donc la semaine prochaine, ce drôle de livre tellement simple qu'il en est difficile, qu'il en devient difficile et qui porte avec lui comme un secret à monde ouvert toute l'œuvre qui lui donne le jour, ce testament qui s'ignore. 17h sur France Culture, dans un instant, du côté de chez soi, Ali Rebéi.
Quelquefois, alors je vais au bout voir la veuve de Pedro. Je parle enfin d'amour, mais elle de mes chevaux. Je m'appelle Zangra, hier trop vieux général, j'ai quitté Bellonzio qui domine la plaine, et l'ennemi est là. Je ne serai pas héros.